إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue la lecture et l'étude de l'épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, intitulée « Leçons importantes pour toute la communauté ». Nous en sommes aujourd'hui à la sixième leçon, dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous expose les conditions de la prière. Et les leçons suivantes concernent également la prière, ses piliers, ses obligations, ce qui est recommandé durant celle-ci ainsi que ce qui l'annule. Donc comme vous le savez, la prière, c'est le pilier le plus important de l'islam après les deux attestations de foi. C'est le pilier de la religion et c'est la première chose sur laquelle tu seras jugé au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si elle est bonne, c'est-à-dire la prière, les autres actes du serviteur seront bons, mais si elle est corrompue, alors ses autres œuvres seront aussi corrompues. » On voit donc qu'il est très important pour nous de prendre soin d'accomplir notre prière comme il se doit. D'autant plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être assidus aux prières. Il a dit subhanahu wa ta'ala « Hafidhu ala salawat » « Soyez assidus aux prières ». Et entre dans cela le fait de les accomplir en s'appliquant à respecter l'ensemble de ses conditions, ses piliers, ainsi que ses obligations, de même qu'à la perfectionner en accomplissant durant celle-ci ce qui est recommandé. Suivant ainsi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». C'est-à-dire en ce qui nous concerne, comme cela nous est rapporté dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et c'est pour cela que le shaykh rahimahullah ta'ala nous expose dans cette leçon ainsi que dans les leçons qui suivent ces questions importantes qui font partie des choses nécessaires que le musulman doit impérativement connaître. Et ce afin d'accomplir sa prière d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé dans cette leçon à nous exposer les conditions de la prière. Et ce car les conditions, elles précèdent l'œuvre. Et c'est pour cela qu'il a commencé par celle-ci. Donc les conditions, le mot shart en arabe, il désigne dans la terminologie religieuse les choses sans lesquelles la prière ne peut pas être valide, mais qui ne font pas partie intégrante de la prière. C'est-à-dire que la prière ne peut pas être valide sans remplir ses conditions. Malgré cela, ces choses, elles ne font pas partie intégrante de la prière. Comme on a dit, elles précèdent la prière. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé par celle-ci. Contrairement aux piliers que l'on verra dans la prochaine leçon, sans lesquels la prière ne peut être valide, mais qui font, eux, partie intégrante de la prière. Il a dit, rahimahullah ta'ala, les conditions de la prière sont au nombre de 9. Et ceci est tiré de l'analyse des textes du Coran et de la Sunna qui a été faite par les savants de l'islam. Il dit la première, c'est l'islam. C'est-à-dire que le mécréant, ni la prière, ni aucune de ses œuvres n'est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Il n'appartient pas aux polythéistes de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas acceptées. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Donc toute œuvre qu'accomplit le mécréant, elle est vaine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il y a une question qui se pose ici. Si ce mécréant entre dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala le guide à cette noble religion, et qu'il avait pour habitude, avant l'islam, de faire certaines œuvres de bien, sera-t-il récompensé pour ces œuvres qu'il accomplissait par le passé? La réponse, elle se trouve dans un hadith authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Hakim ibn Hizam, radiyallahu ta'ala anhu, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de certaines bonnes œuvres qu'il accomplissait durant la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, la période pré-islamique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, tu es entré en islam avec ce que tu faisais auparavant comme bien. Les gens de science ont dit que ceci est une preuve que toutes les œuvres de bien qui sont confirmées par l'islam, c'est-à-dire qui sont légiférées en islam, et que la personne faisait durant sa période de mécréance, avant son entrée en islam. Alors une fois qu'elle entre en islam, elle est récompensée pour ses œuvres. Et ceci fait partie de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui entrent dans cette noble religion. Et s'ajoute à cela le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout ce qu'il a commis auparavant comme péché. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Dis à ceux qui ont mécru que s'ils cessent, c'est-à-dire s'ils cessent leur mécréance, on leur pardonnera ce qui est passé, c'est-à-dire les péchés qu'ils ont commis par le passé. De même que ceci est confirmé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala au sujet de l'entrée en islam du noble compagnon Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, lorsqu'Allah a ouvert mon cœur à l'islam, je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, tends-moi ta main que je te prête allégeance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main, mais Amr de la retirer. Il retira sa main au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit la sienne. Alors il lui dit, qu'as-tu, Amr? Il répondit, je souhaite émettre une condition, c'est-à-dire une condition pour entrer en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quelle est cette condition? Amr lui dit alors de me faire pardonner, c'est-à-dire se faire pardonner ce qu'il a pu commettre avant l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède? Donc on voit à travers ces textes que celui qui entre en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce en lui pardonnant l'ensemble de ses péchés passés et en le récompensant pour les œuvres de bien qu'il a pu accomplir avant l'islam. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son immense miséricorde envers ses serviteurs. Ceci est donc la première condition de validité de la prière, que la personne soit musulmane. Et ceci est une condition pour l'ensemble des œuvres pieuses, comme on l'a dit, car le mécréant, ses œuvres sont vaines et rejetées. La deuxième condition est la raison, qui est le contraire de la folie. Celui qui a perdu sa raison, celui qui est atteint de folie, la plume est levée pour lui jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. C'est-à-dire qu'il n'a aucune obligation et que rien n'est noté de ses œuvres. Comme il est venu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La plume est levée pour trois. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. » Et ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Par conséquent, celui qui n'a pas sa raison, il n'est pas demandé pour lui de prier, ni de jeûner, ni autre parmi les œuvres légiférant en islam. La troisième condition est le discernement. Le discernement, c'est l'âge à partir duquel l'enfant commence à distinguer entre le bien et le mal. C'est-à-dire, il distingue entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible. Lorsqu'on lui parle, il comprend ce qu'on lui dit et il est capable de répondre. Ceci est l'âge du discernement. Avant cet âge, la prière de l'enfant n'est pas valide, car il ne peut pas avoir l'intention d'un acte, étant donné qu'il ne discerne pas entre les choses. Et c'est pour cela qu'il n'est pas demandé d'ordonner aux enfants en bas âge d'accomplir la prière. De même qu'il n'est pas légiféré avant l'âge de discernement, et avant qu'ils accomplissent parfaitement les ablutions et la prière, de les mettre dans les rangs de prière dans les mosquées. En effet, si on les met dans les rangs avant l'âge du discernement et avant qu'ils accomplissent correctement la prière et les ablutions, alors leur présence est une cause de coupure du rang. Donc c'est une erreur que font certains parents lorsqu'ils emmènent leurs enfants en bas âge à la mosquée, de les placer entre eux et le prieur qui est à leur droite ou à leur gauche. Ceci n'est pas légiféré. Mais si tu as un enfant en bas âge avec toi et que tu te rends à la mosquée, alors il te convient ou bien de te mettre à l'extrémité du rang, à sa droite ou à sa gauche, et de placer l'enfant entre toi et le mur. Ainsi, il ne coupera pas le rang. Ou alors, s'il y a assez d'espace entre les rangs, alors tu peux le placer devant toi. Et il n'est pas demandé de le placer dans le rang de prière. Il y a certains parents qui disent « Oui, mais je veux l'habituer. » Comme on va le voir dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas demandé de l'habituer avant 7 ans. Donc les gens de science, certains parmi eux, ont délimité l'âge du discernement à l'âge de 7 ans. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les pour celle-ci à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les couches. » C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 7 ans, la prière n'est pas une obligation pour l'enfant, car elle deviendra une obligation pour lui seulement à la puberté. Toutefois, c'est une obligation pour ses parents ou ses responsables légaux de lui ordonner la prière. Et ce, d'après cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous venez d'entendre dans le hadith. Il n'est donc pas permis pour les parents, une fois que l'enfant a atteint l'âge de 7 ans, de laisser un temps de prière passer sans ordonner à leur enfant de prier. L'enfant, s'il ne prie pas, lui, il n'a pas de péché. Mais toi, en tant que parent, en tant que responsable légal de cet enfant, si tu ne lui ordonnes pas de prier, alors toi, tu es dans le péché. Et ça, c'est un point important à comprendre. Car il y a certains parents qui sont laxistes à ce sujet. Te dit, il n'est pas pubère. Il n'a pas de péché. La plume est levée. Comme vous l'avez entendu dans le hadith, la plume est levée pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc il pense que sous prétexte que la plume est levée, qu'il peut passer des journées entières sans même accomplir une seule prière. Mais toutefois, toi, ta plume, elle n'est pas levée. Tu as des comptes à rendre. Tes enfants, ce sont un dépôt qui t'a été confié. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a ordonné vis-à-vis de ce dépôt de leur ordonner la prière dès l'âge de 7 ans. Et entre dans cet ordre le fait d'enseigner à l'enfant les règles de la prière et les règles de ce qui est nécessaire de connaître pour pouvoir accomplir sa prière comme il se doit, comme les règles des ablutions et de la purification. Et ceci est une obligation pour les parents. Une fois que l'enfant atteint l'âge de 10 ans, alors on se doit d'être plus strict avec lui. Même s'il n'est pas encore pubère, il se peut qu'il soit, à cet âge, déjà pubère, et que la prière soit alors une obligation pour lui. Mais même s'il n'est pas encore pubère à partir de 10 ans, on se doit de faire preuve de plus de rigueur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et frappez-les pour celle-ci à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que si l'enfant manque une prière à partir de cet âge-là, alors on doit le réprimander. Et ce, en guise d'éducation. Donc vous voyez à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'enjoindre la prière aux enfants dès l'âge de 7 ans. Donc d'un côté, on a certaines personnes qui font preuve de laxisme et ne se soumettent pas à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ordonnent pas à leurs enfants la prière. Et ceci est une grave erreur, comme on a dit, un manquement à leur responsabilité. Et d'un autre côté, on a certaines personnes, par désir du bien, qui ordonnent la prière à leurs enfants avant l'âge de 7 ans. Et ceci n'est pas demandé dans notre religion. Car ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de leur ordonner la prière une fois qu'ils ont atteint l'âge de 7 ans. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le discernement est une condition de validité de la prière. Si l'enfant n'a pas atteint l'âge de discernement, alors sa prière n'est pas valide. La quatrième condition est la levée de l'état d'impureté. Et ce qui est visé par cela, c'est le fait de se purifier. Et l'état d'impureté, comme vous le savez, il est de deux sortes. Il y a l'état d'impureté mineure, que l'on va lever, que l'on va retirer, en faisant nos ablutions. Et les ablutions, on verra leurs conditions et leurs piliers, incha'Allah ta'ala, dans les leçons 12 et 13 de cet ouvrage. Et il y a l'état d'impureté majeure, qui celui-ci est levé par le grand lavage, el-rusl, les grandes ablutions. Et celle-ci consiste à passer de l'eau sur l'ensemble du corps, en se rassant également le nez et la bouche. Donc celui qui prie en état d'impureté, que ce soit en état d'impureté majeure ou mineure, sa prière n'est pas valide. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Allah n'accepte pas une prière sans purification ». Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Il est donc obligatoire pour le musulman de se purifier des états d'impureté majeure et mineure afin de pouvoir accomplir sa prière. La cinquième condition est le retrait des impuretés. Ce qui est visé par cela, c'est le fait de purifier son corps, ses vêtements et l'endroit où l'on prie des éventuelles impuretés qui peuvent s'y trouver. Ceci est une chose dont l'obligation est confirmée à l'unanimité des gens de science. Et cette purification, elle a lieu avec de l'eau, comme il est venu dans le hadith du bédouin qui a uriné dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on verse un seau d'eau dessus. Donc s'il y a une impureté dans l'endroit où tu souhaites prier, ou sur ton vêtement, alors il t'incombe de te purifier pour prier. Et ici, il y a une question qui se pose. Si après ma prière, je me rends compte qu'il y avait une impureté sur mon vêtement, est-ce que ma prière est valide? La réponse est que la prière est valide, inshallah ta'ala. En effet, il a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour alors qu'il priait, il enleva ses chaussures. Alors les compagnons derrière lui ont fait de même. Ils ont enlevé leurs chaussures. Après la prière, il leur a demandé « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ils ont dit « Nous t'avons vu retirer tes chaussures, nous avons fait de même au messager d'Allah. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que Jibril alayhi salam était venu à lui et il avait informé qu'il y avait une impureté sur ses chaussures. Et c'est pour cela qu'il les a retirées au cours de la prière. Les savants ont dit que l'on tire de cela, que celui qui prie alors qu'il a une impureté sur son vêtement sans qu'il ne le sache, sa prière est valide. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ici une partie de sa prière alors qu'il y avait cette impureté sur ses chaussures. De même, ils ont dit que ceci est une preuve que si tu as une impureté sur un de tes vêtements et que tu t'en rends compte durant la prière et qu'il t'est possible de retirer ce vêtement. Par exemple, c'est sur ta veste. Il est possible de retirer ta veste. Dans ce cas-là, c'est une obligation de retirer ce vêtement et tu continues de prier. Ceci n'a pas d'influence sur la validité de ta prière. Toutefois, si cette impureté est sur un vêtement que tu ne peux pas retirer, alors dans ce cas, il est obligatoire pour toi d'interrompre la prière, de purifier ton vêtement, puis ensuite de recommencer cette prière. La sixième condition est de couvrir sa aura. La aura, que l'on pourrait traduire par la nudité, qui désigne en ce qui concerne l'homme la partie du corps comprise entre le nombril et le genou. Et les savants ont divergé concernant le nombril et le genou. Sont-ils compris dans la aura ou non? Et le plus prudent est de les couvrir afin de sortir de cette divergence et ainsi d'être sûr d'avoir couvert entièrement sa aura. Et concernant la femme, de manière générale, comme il est venu dans le hadith, elle est entièrement une aura, c'est-à-dire qu'elle doit entièrement être couverte. Toutefois, en ce qui concerne la prière, elle se couvre entièrement à l'exception de son visage et de ses mains. Et ce, si elle se trouve dans un endroit dans lequel ne se trouve aucun homme étranger qui peut la voir. Mais si elle se trouve en présence d'un homme étranger, comme dans un lieu public, dans lequel elle peut être vue par des hommes étrangers, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour elle de couvrir l'ensemble de son corps. La preuve concernant cette condition est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre, au verset 31 de Surat al-Araf, « Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô enfant d'Adam, portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements, dans chaque lieu de prière. » Et les gens de science ont mentionné que ici, chaque lieu de prière signifie lors de chaque prière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux prier, il t'incombe de couvrir ta aura. C'est cela qui est visé par la parure ici. Quant à ce qui est supplémentaire à cela, en termes d'embellissement, cela est recommandé mais n'est pas une condition de validité de la prière. Et en ce qui concerne la femme, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par les imams Abu Dawud, At-Tirmidhi et Ibn Majah et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. D'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère si ce n'est avec un voile. » Et le mot employé dans le hadith est la femme « ha'id », c'est-à-dire qui a ses menstrues. Mais j'ai traduit directement par l'explication qui est le fait qu'elle soit pubère. Donc lorsqu'elle est pubère, il est obligatoire pour elle de se couvrir l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains, comme on a dit en l'absence d'homme étranger. Mais en cas de présence d'homme étranger, alors elle devra couvrir l'ensemble de son corps. Également, parmi les choses importantes à souligner sur ce point, il y a le fait que les vêtements serrés ou les vêtements transparents laissant apparaître la aura, alors ceux-ci ne suffisent pas et il n'est pas permis de prier avec ce type de vêtements. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « La septième condition est l'entrée du temps, c'est-à-dire l'entrée du temps de prière. » Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. » En vérité, la prière demeure pour les croyants une obligation en des temps déterminés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé le choix de prier comme bon nous semble. Mais il a légiféré pour chaque prière un temps pour celle-ci. Et il a même envoyé Jibril alayhi salam pour enseigner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les différents temps de prière. Il est venu un jour au début de chaque temps de prière. Puis il est venu un autre jour à la fin de chaque temps de prière. Donc le premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli les 5 prières au début de leur temps. Et l'autre jour, il a accompli les 5 prières à la fin de leur temps. Puis il a dit à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, la prière se trouve entre ces deux temps. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'accomplir la prière après l'entrée de son temps et avant la fin de son temps. C'est-à-dire que chaque prière, son temps a un début et une fin. Ce n'est pas comme certaines personnes le pensent, qu'il est obligatoire de prier exactement à l'heure indiquée sur le calendrier. Il voit par exemple, le dhuhr est à 13h53. Il pense qu'à 13h53, il faut qu'il soit debout en train de prier. Ce n'est pas cela qui est demandé. 13h53, cela t'indique l'entrée du temps de prière. C'est-à-dire qu'à partir de cette heure, il est légiféré pour toi de prier. Et ce temps, il a une fin. Et en ce qui concerne le dhuhr, c'est l'entrée du temps de la prière de l'asr. Donc à supposer que l'heure de la prière de l'asr soit à 17h30. On dira que le dhuhr doit être accompli impérativement entre 13h53 et 17h30. Bien sûr, le mieux pour le musulman, de manière générale, est d'accomplir l'ensemble de ses prières dès l'entrée de leur temps, et de ne pas les retarder. À l'exception du dhuhr, pour lequel il est légiféré en cas de forte chaleur, pour l'imam, de retarder la prière en commun, et ce jusqu'à ce que la chaleur se dissipe un peu, jusqu'à ce que le soleil commence à redescendre, qu'il y ait un peu d'ombre, et ainsi de suite. De même en ce qui concerne l'Aïcha, il est recommandé, s'il n'y a pas de difficulté en cela, de la retarder jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Toutefois, s'il y a une difficulté en cela, alors on l'accomplira dès le début de son temps. Et cette condition, ce n'est pas une condition à prendre à la légère. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les temps de prière ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils peuvent prier comme bon leur semble. Il sait que la prière de dhuhr commence à telle heure et termine à telle heure, mais il ne se soucie pas de cela. Il prie quand il a le temps, quand il se libère de ses occupations, sans se soucier de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il a prescrit la prière pour les croyants des temps déterminés. Et il te suffit pour te prouver la gravité de cela, de savoir que les savants de l'islam ont divergé concernant le statut de celui qui retarde volontairement une prière en dehors de son temps. C'est-à-dire celui qui volontairement, il délaisse une prière en son temps et la fait sortir de son temps. Comme on a dit, pour reprendre l'exemple que l'on a donné précédemment, si la asr est à 17h30, il laisse de 14h à 17h30 passer volontairement sans accomplir le dhuhr. Alors les savants ont divergé à son sujet, à savoir, est-ce qu'il est sorti de l'islam à cause de cela? Le simple fait d'avoir connaissance de l'existence de cette divergence te suffit pour te prouver la gravité du fait de laisser une prière sortir de son temps. Bien sûr, il est permis pour le voyageur, pour celui qui est malade, ou alors pour l'imam à la mosquée en temps de pluie, de réunir entre les prières, de réunir le maghreb avec l'aïcha, ou le dhuhr avec l'asr. Mais ceci n'est pas une permission qui est donnée à tous et de manière générale. Cela a des conditions, comme on a dit, pour le voyageur. Celui qui est en voyage, il aura le choix de prier chaque prière en son temps, ou alors de les réunir, d'accomplir le dhuhr avec l'asr, ou bien à l'heure du dhuhr, ou bien à l'heure de l'asr, et d'accomplir le maghreb et l'aïcha, ou bien à l'heure du maghreb, ou bien à l'heure de l'aïcha. Et il en est de même pour le malade, pour qui il est difficile d'accomplir chaque prière en son temps. Alors celui-ci, afin de repousser cette difficulté, il lui est permis de réunir ses prières. Et ainsi de suite, parmi les permissions mentionnées à ce sujet. Toutefois, il n'est pas permis de les réunir sans raison valable. Et celui qui a été empêché d'accomplir une prière suite à une excuse. Par exemple, il devait subir une opération. Il est au bloc opératoire durant le temps de la prière du dhuhr. Il est sous anesthésie ou autre, et il n'en sort qu'après l'entrée du temps de la prière de l'asr. Alors celui-ci, il accomplit sa prière dès qu'il en a la possibilité. C'est-à-dire dans ce cas-là, dès qu'il va sortir du bloc opératoire et qu'il pourra prier. Il en est de même pour celui qui dort, qui ne s'est pas réveillé au moment de la prière. Il n'a pas été négligent, il s'est couché après le dhuhr pour faire une sieste, il met un réveil pour se lever à l'heure du asr, il ne l'entend pas et il n'y a personne pour le réveiller. Il se lève alors à l'heure du maghrib. Dans ce cas-là, il accomplira la prière du Asr dès qu'il se réveille. Il en est de même pour celui qui oublie une prière. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui dort au moment d'une prière ou l'oublie alors qu'il l'accomplisse dès qu'il s'en rappelle. » dès qu'il s'en rappelle, dès qu'il se réveille, dès que la chose qui l'empêchait d'accomplir sa prière n'est plus présente, il accomplit alors cette prière, et elle est valide, inshallah ta'ala, il n'y a pas de gêne en cela. La huitième condition est de faire face à la qibla. Donc vous avez en note de bas de page, le mot qibla signifie en arabe direction. Il désigne ici la direction vers laquelle se dirigent les musulmans pour prier, qui est la direction de la mosquée sacrée de la Mecque. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit au verset 144 de Sourate al-Baqarah, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Certes, nous te voyons tourner ton visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, c'est-à-dire la direction de la Kaaba. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages. De même que ceci est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait mal fait sa prière, lorsque tu te lèves pour prier, parfais tes ablutions, puis fais face à la qibla et prononce le takbir, prononce Allahu Akbar. Donc si le musulman se trouve dans l'enceinte de la mosquée sacrée, à Mecca, et qu'il voit la Kaaba de ses yeux, dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui d'être face à la Kaaba. Il ne doit pas prier dans une autre direction. Mais il est impératif qu'il prie dans la direction exacte de la Kaaba, étant donné qu'il la voit de ses yeux. Mais celui qui ne la voit pas, qui n'est pas à Mecca, qui est dans une autre ville, comme c'est notre situation, alors il suffit de prier dans la direction. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit au sujet de la Qibla, sujet de la direction de prière des gens de Médine, qu'elle se trouve entre l'Est et l'Ouest. On voit à travers cela qu'il y a une certaine marge d'erreur qui est tolérée. Donc en ce qui nous concerne approximativement, on dira que la Qibla, elle se trouve entre le Nord-Est et le Sud-Ouest, approximativement. Donc celui qui prie dans cette direction, sa prière est valide, Inch'Allah ta'ala. Et si tu ne peux pas connaître la direction de la Qibla, tu es dans un endroit que tu ne connais pas et dans lequel tu n'as pas l'habitude d'aller, et tu ne connais pas la Qibla, alors tout d'abord il t'incombe de te renseigner, d'essayer de savoir quelle est la direction, et ce en interrogeant les gens, ou alors en te servant des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, comme avec le soleil ou les étoiles durant la nuit, et ainsi de suite. Ou alors tout simplement par l'installation des applications qui sont disponibles aujourd'hui et qui te permettent de trouver la direction de la Qibla. Mais à supposer que rien de cela ne soit possible, il n'y a personne à interroger, tu ne connais pas les signes te permettant de trouver la Qibla, tu n'as pas d'application ou de boussole te permettant de connaître la direction, et tu es obligé d'accomplir la prière à ce moment-là, sinon si tu la retardes, par exemple en attendant de te trouver dans un autre endroit où tu pourras connaître la Qibla, le temps va sortir. Alors qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? À ce moment-là, tu fais autant d'efforts que tu peux. Tu crains Allah autant que tu peux, puis tu pries dans la direction que tu penses être la direction juste, et ta prière est valide, incha'Allah ta'ala. De la même manière, celui qui est dans l'incapacité de s'orienter vers la Qibla, comme par exemple celui qui se trouve en avion. Si tu prends l'avion, et que durant ton voyage en avion, il y a un moment de prière, c'est-à-dire que le temps de prière n'entre qu'une fois que tu te trouves dans l'avion, et que lorsque tu en sors, lorsque tu sors de l'avion, le temps de prière sera terminé. Par exemple, tu prends l'avion avant l'entrée du temps du Fajr, et l'avion n'atterrit que lorsqu'il fait jour, après le Shuruq. Dans ce cas-là, tu seras contraint de prier dans l'avion. À ce moment-là, s'il ne t'est pas possible de te lever pour prier, comme c'est le cas dans beaucoup d'avions aujourd'hui, et que tu ne peux pas te diriger en direction de la Qibla, alors tu pries dans la direction qui t'est facilitée, et ta prière est valide, incha'Allah ta'ala, et tu es excusé de par ton incapacité. Mais si tu as la capacité de prier en direction de la Qibla, de connaître la direction même dans l'avion, et de t'orienter vers celle-ci, alors il est obligatoire pour toi de le faire. Et j'ai précisé ici que c'est dans le cas où tu n'as pas le choix que d'accomplir la prière dans l'avion. Car, à supposer que l'avion ne décolle qu'après l'entrée du temps de prière. Ou alors qu'au moment où tu vas atterrir, cela sera encore le temps de prière. Dans ce cas-là, tu ne pries pas dans l'avion, mais tu pries avant le décollage ou alors après l'atterrissage. Enfin, parmi les points à mentionner au sujet de cette condition, il y a le fait qu'il y a une exception à celle-ci, et qui est la prière surérogatoire que l'on accomplit sur la monture durant le voyage. C'est-à-dire que lorsque tu es en voyage, que ce soit en voiture, en bateau, en avion ou autre, il t'est permis, comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir les prières surérogatoires, comme la prière de nuit, le witr ou autre, assis sur la monture, même si celle-ci n'est pas en direction de la qibla. Et ceci fait exception à la règle. Enfin, la neuvième condition, c'est l'intention. Et l'intention, elle se trouve dans le cœur. Et c'est la base pour toute adoration. Et celle-ci est prouvée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les œuvres ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Donc l'intention, elle se trouve dans le cœur. Elle ne doit en aucun cas être prononcée par la langue. Car le fait de la prononcer par la langue, cela fait partie des innovations en religion, des choses qui ne sont pas légiférées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée verra son œuvre rejetée. Comme cela est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et l'intention donc, c'est celle qui va te permettre de différencier entre tes prières, entre une prière obligatoire et une prière surérogatoire, et également entre les différentes prières obligatoires et les différentes prières surérogatoires. À titre d'exemple, le matin, tu accomplis, à l'heure du fajr, la ratiba du fajr, qui est de deux unités, qui est une prière surérogatoire. Puis tu accomplis après celle-ci les deux unités de la prière du fajr qui sont obligatoires. Qu'est-ce qui différencie entre ces deux prières? C'est ton intention. Et c'est cette intention qui est une condition de validité de la prière. Et il y a une autre intention que le musulman se doit de réformer et de corriger dans l'ensemble de ses œuvres, qui est l'intention de ce qui le motive à accomplir cette œuvre. Est-ce qu'il accomplit cette œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'il accomplit cette œuvre par ostentation, par recherche des éloges ou des compliments des gens, ou autre chose parmi les intentions que pourrait avoir une personne? Et cette attention, elle est très importante, car c'est d'elle que va dépendre l'acceptation de ton œuvre. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement. Donc on a dit que l'intention, c'est une condition de la prière, comme l'a mentionné l'auteur. Et il faut savoir que vous pourrez trouver dans certains ouvrages que des gens de science ont dit que c'est un pilier de la prière. Et ce car, elle fait partie intégrante de la prière et qu'elle continue tout au long de la prière. Et ceci ne change rien quant au jugement. Car la condition et le pilier, ils ne doivent en aucun cas être délaissés, mais c'est simplement une différence d'appellation. Enfin, parmi les choses à souligner au sujet de cette condition, il y a le fait qu'il est permis lorsque tu accomplis une prière en commun, que ton intention soit différente de celle de l'imam derrière lequel tu pries. Ou alors que ton intention soit différente de ceux qui prient derrière toi. C'est-à-dire qu'il est possible que tu accomplisses la prière du dhuhr derrière quelqu'un qui accomplit la prière de l'Asr. Par exemple, si tu es voyageur et que tu rentres dans une mosquée à l'heure de l'Asr et que toi tu n'as pas encore accompli le dhuhr, tu arrives au moment de l'iqama, au moment où ils accomplissent la prière. Alors tu pries derrière cet imam avec l'intention de prier le dhuhr. Une fois que tu as terminé, tu accompliras l'Asr. Et la prière est valide et il n'y a pas de gêne en cela. De même qu'il est permis pour une personne d'accomplir une prière obligatoire derrière un imam qui accomplit une prière surérogatoire. Et inversement, accomplir une prière surérogatoire derrière un imam qui prie une prière obligatoire. Et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Ceci était donc quelques questions et quelques points résumés concernant ces 9 conditions de la prière qui, comme vous l'avez vu, font partie des choses essentielles que tout musulman se doit de connaître. Et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, dans la prochaine leçon, les piliers de la prière. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.